the slum, can't get off the bum. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Juste 20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. C'est surtout la grande soirée des Jeux, la quatrième depuis le lancement de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité autour donc de ces JO de Paris. On est ensemble donc avec toute l'équipe qui est présente, avec à ma gauche Faustin qui est là et qui a l'air d'aller un peu mieux que samedi dernier.
Ouais, je suis rassuré, je suis un homme heureux ce soir.
Ça va alors?
Ouais, je passe une bonne nuit.
On expliquera pourquoi.
Exactement.
Également avec nous, Mathéo qui est là. Salut Mathéo, comment ça va?
Salut Alex.
Non, je vous sens tout très longtemps.
Non, j'étais pas en train de me dire ça. Bah écoute, en tout cas, ça va très très bien. J'ai milité pour des surprises la semaine dernière. Et merci au basket et merci au surf d'exister. Voilà, quel plaisir c'est cette nuit et puis cette journée et même hier de sport olympique.
Ouais, on a passé encore des bonnes journées sur ces JO, même si on a ralenti un peu niveau médaille. Face à moi également, Florian qui est là. Salut Florian, comment ça va?
Ça va, écoute, ça va très bien. On a été mauvaise langue samedi soir.
C'est vrai.
On s'attendait au pire et ils nous ont offert le meilleur. Voilà, on va résumer un peu ce dont on va parler tout à l'heure, je pense.
Exactement. Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Ça va, je suis toujours en vie.
Toujours en vie?
Toujours en vie, ouais. C'est dangereux ces scénarios là qu'on vit en ce moment là.
Oui, c'est vrai.
Le JO depuis samedi. Faut pas être cardiaque. Hein.
Exactement, puisqu'on a eu le basket 3x3.
On a
le judo.
La finale du judo.
Qui était quand même
le volley aussi.
Le volley, ouais. Le foot.
Un petit peu.
Beau scénario quand même. On va lire.
Finalement, on vibre bien sur cette dernière semaine du JO. On se posait la question de qu'est-ce qui allait nous faire vibrer le soir. Bah, pour l'instant, on a toujours eu quelque chose d'intéressant à voir et avec souvent des bons résultats.
C'est pas l'athlé, quoi.
C'est exactement l'athlé.
Si. On a eu un beau moment en athlé.
Avec les Français.
Mais pas chez nous.
Pas les Français. Pas de médaille en athlé encore pour les Français. Justement, on va parler de ce qui va nous attendre pour cette émission. Juste avant de vous présenter le sommaire, vous dire que l'équipe de France de basket masculine vient de se qualifier pour les demi-finales du tournoi olympique avec cette victoire 82-73 contre le Canada. Beaucoup de chroniqueurs autour de la table ne s'attendaient pas à cette belle performance, mais ils l'ont fait. Les hommes de Vincent Collet iront donc dans le dernier carré du tournoi olympique du côté de Bercy. au programme de cette émission. On va commencer par le récap. Vous en avez maintenant l'habitude. Toutes les dernières médailles des Bleus depuis samedi soir. Ensuite, on débriefera justement ce match entre la France et le Canada. On dira peut-être aussi un mot du basket 3x3 avec cette belle médaille d'argent arrachée hier. Et ensuite, on aura par téléphone Clément, si la technique veut bien marcher, pour essayer donc d'avoir son ressenti, lui qui assiste aux épreuves de Paris 2024. Donc il nous dira un petit peu ce qu'il en pense. Il va jouer les envoyés spéciaux pour nous depuis Paris. Ensuite, on fera un point sur également les sports collectifs, puisqu'on a eu un match, comme on le disait, retentissant au niveau du volley, cette belle remontada des Bleus. Le handball féminin avec cette qualif obtenue aujourd'hui, et hier soir également le football masculin et cette place en finale avec cette médaille assurée pour les hommes de Thierry Henry. Et puis enfin d'émission, on évoquera l'athlétisme avec donc le retour sur les premiers jours, et puis on essaiera de se projeter sur la fin de semaine où on essaiera de ne pas faire le zéro pointé hein, pour les athlètes tricolores. Au niveau des fils rouges à suivre, on aura aux alentours de 20h07 les demi-finales du 400 mètres haies avec deux Françaises qui sont impliquées, avec donc Shana Grébeau et Louise Maraval. On regardera aussi du côté de 50 ans en Yvelines, puisque en ce moment même, sûrement ça a déjà dû commencer, un match pour la médaille de bronze avec l'équipe de France de vitesse par équipe. Donc
ça vient même de sonner.
Ah, alors, bah, du coup, breaking news, Cédric.
Défaite, bah, de la France contre donc, c'était l'Australie.
C'est ça.
Ça joue vraiment à pas grand chose, hein, sur les, bah, faut rappeler ce format-là, c'est, donc, trois coureurs, qui seront, on va dire, plus ou moins qui se relaient, en fait. Et, donc, sur les deux premiers relayeurs, la France était devant.
Ah, mince.
Et, déjà, la fin du deuxième, l'Australie est remontée, et passé devant pour quelques centièmes, et ensuite en solo, bah, c'est l'Australien qui a été le plus fort.
Les Français qui ne décrocheront pas de première médaille pour le cyclisme sur piste. On va donc tout de suite passer au récap.
Tout de suite, c'est l'heure du récap.
Le récap avec les dernières médailles françaises dans ces Olympiades de Paris 2024. Petit ralentissement dans la moisson hein, depuis dimanche dernier, avec seulement 7 médailles en 3 jours pour la délégation française. Dimanche, c'est le jeune mais grand Félix Lebrun qui a décroché le bronze à l'issue de la petite finale remportée face au Brésilien Hugo Calderano. En début de soirée, deuxième médaille de bronze de la journée avec les relais, le relais des nageurs du 4x100 mètres 4 nages composé de Léon Marchand, Johan Endoy-Brouard, Maxime Grousset et Florent Manodou. Quelques minutes plus tard, l'équipe de fleuret masculin s'emparait de la même médaille dans le tournoi par équipe. Lundi, c'est la kayakiste Angèle Hugues qui ouvrit le compteur tricolore avec l'argent sur la spectaculaire épreuve du kayak cross. Tard dans la soirée, les basketteurs du 3x3 français remportaient l'argent après deux exploits en play-in contre la Serbie et en demi contre la Lettonie. En finale face aux Pays-Bas, les Bleus sont passés proches de l'or, mais furent crucifiés par un magnifique panier néerlandais en prolongation. Enfin, la nuit dernière, les épreuves de surf à Tahiti ont rendu leur verdict avec plusieurs jours de perturbations en raison des conditions climatiques. Donc, dans le tableau féminin, Joanne Defay, qui a raté la finale de peu, a glané le bronze dans la petite finale. Chez les hommes, c'est le local de l'étape, Kaoli Vast, qui a dompté la vague de Teahupo, qui connaît évidemment par cœur, pour devenir champion olympique. À noter, lors de ces trois derniers jours, les quatrièmes places frustrantes pour Samir Ait Said en finale des anneaux, également pour Victor Pérez en golf après une belle remontée dans la dernière journée, pour le relais tricolore mixte de triathlon, et enfin pour le cavalier Julien Epaillard avec la chute finale d'une barre dans les derniers instants. Ça c'était aujourd'hui en concours de saut d'obstacle. Messieurs, comme d'habitude, je vais poser un peu la même question. Quel souvenir vous gardez des trois derniers jours, donc aujourd'hui, hier et puis dimanche, ou même samedi soir après l'émission? Est-ce qu'il y a un souvenir que vous gardez?
Moi, je pense que je vais dire le basket 3-3. Ouais. Parce que c'est mon sport fétiche et c'était une magnifique surprise où d'habitude j'aime pas trop ça, le basket 3-3, que ce soit à jouer ou à regarder. Okay. Ouais. Et là je m'y suis carrément plu, surtout parce que les Français brillaient, mais ouais, c'était sympa à voir, à comprendre comment ça se jouait, parce que c'est vachement différent du 5-5 aussi.
Ok, Mathéo.
Comment ne pas parler de Kaoli Vast, chez lui, ouais. Il a 21 ans, il est très 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 jeune. Les dieux du surf étaient avec lui. Je pense que cette phrase on l'a beaucoup entendue, mais c'est trois fameuses vagues.
Les dieux voyants.
Oui, voilà, mais des dieux tout court étaient avec lui, parce que trois vagues, et il en chope deux et il fait deux magnifiques. De magnifiques courses, je sais pas comment on dit en surf, mais en tout cas c'était
des runs, enfin c'est
ouais, deux magnifiques runs, il obtient une note de 17 je crois à la fin. Donc voilà, je pense que c'est la belle histoire de cette semaine du côté de la France.
Ah, et il bénéficie d'une superbe vague, je crois sur la première tentative.
Vraiment une belle baleine aussi.
Ouais, qui a l'habitude de surfer, enfin pour lui il était vraiment dans son berceau quoi.
On l'a senti aux anges.
Ok, très bien. C'était cette nuit, effectivement, du côté de Tahiti. Florian,
je vais te dire la médaille en relais natation.
Ok.
Le 4x100, 4 nages, je vais pas prendre le 3-3. C'est vrai que le 3-3, c'était incroyable. Et ce shoot à la dernière seconde, c'était fou. Mais non, cette médaille de collective avec Flo Manodou, avec Léon Marchand, avec Endoy Brouard et Grousset, c'était vraiment bien. En fait, on y a cru jusqu'au bout en se disant il va y avoir la plus belle des médailles. Et malheureusement aussi, il y a des extraterrestres aussi, sans parler de compétences sportives ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les chiffres sont assez fous de cette finale, de voir un record de tomber du 100 mètres lancé, bien évidemment, mais par les Chinois, c'était fou. Donc tu pouvais pas forcément rivaliser pour aller chercher l'or olympique, mais cette médaille de bronze collective, elle est très très belle.
Elle est très très belle. Cédric, toi, qu'est-ce qui t'a marqué?
Je rejoins un peu tout le monde déjà, parce que c'est vrai que ça a été des...
Trois moments forts.
Même si je suis triste de pas avoir vu le surf, parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais de voir, hélas. Je crois que normalement la finale aurait dû être ce week-end, mais bon, avec les conditions qui ont fait que les vagues n'étaient pas forcément praticables dans la semaine, ça a décalé. J'ai vu du coup en décalé, moi, c'est peut-être pas la médaille la plus impressionnante, mais en tout cas c'est le nouveau sport qui est vraiment impressionnant, c'est le kayak cross.
Ouais,
on en parlait déjà un petit peu samedi.
Ah, c'est fou.
Mais ce final, elle est folle quoi. Enfin,
ah bien sûr.
Ça se rentre bien dedans. Et, ce matin, j'entendais une interview. Ils sont même rendus à un point en fait, c'est que même eux, ça fait 4 ans qu'ils se préparent, et même eux en fait, ils savent pas ce qui est encore toléré et
oui,
pas toléré. C'est vraiment.
C'est Tito Castri qui disait ça, parce que justement, il avait été éliminé à cause d'une bouée qu'il avait mal passée.
Ouais,
c'est vrai que c'est assez fou comme sport.
C'est le côté, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un Mario Kart.
Avec cette phrase de Tito Castri en disant c'est un sport de garagiste.
Voilà, j'allais dire aussi, voilà. C'est
très très fort.
Non, mais c'est bien, c'est une...
Ah, moi j'adore. J'adore.
C'est une discipline complètement foufou.
L'esquimotage, c'est quand il passe sous l'eau.
Sous l'eau,
faire 360,
c'est complètement foufou. Toi, d'habitude, t'évites tout pour chavirer, parce que c'est pas sympa, mais eux, non, lui, let's go, vas-y, on passe comme ça.
Et puis pour revenir sur la française, Angèle Hugues, qui a, je crois, à deux reprises, a fait la même technique dans le... Elle avait un peu de retard.
Ouais.
Et en gros, à un moment donné, il fallait contourner une bouée rouge. Et elle a tapé sur l'adversaire qui avait de l'avance sur elle pour la dépasser.
C'est vraiment du contact.
Franchement, c'était.
C'est frais comme sport, c'est bien. Ça ramène un côté.
Apparemment, même les athlètes n'aiment pas, mais.
mais ça ramène un côté fun et jeune, je trouve.
Est-ce que cette version du canoë-kayak sera encore présente en 2028?
Ah, ça on sait pas.
Ça peut marcher aussi.
Si les athlètes sont pas forcément friands en fait ou n'en sont pas fans, je pense qu'à un moment donné on va les écouter. Surtout qu'en plus, qu'il y a une annonce en plus qui est tombée, comme quoi le flag va faire en son entrée.
Ouais, il y a le flag, le baseball.
Et donc du coup, après, il a enlevé forcément des choses. Donc
après, là, ça fait partie d'un sport. Tu vois.
Ouais.
Après, c'est des sports qui rentrent, qui sortent, mais là, c'est une épreuve, tu vois,
ouais.
d'un sport. Bon, on verra ça.
Mais en tout cas, ouais, non. Pour voilà, parler un peu, ouais, je dirais ça comme combo moment, puis les quelques espoirs qu'on a pu avoir quand même en athlée pour notre porte-drapeau,
Mélina,
voilà, que c'est
Mélina Robert Michon.
Je pense que c'est hélas ses derniers JO, je pense, donc
trois mauvais jets, malheureusement.
Hélas, ouais. Mais bon, déjà une belle performance pour se qualifier.
7 JO.
7 JO, c'est fort.
Depuis, ouais, voilà,
depuis Sydney.
Sydney 2000.
C'est ça. Donc j'étais pas né.
Okay. On n'était pas beaucoup à être
né. Ouais, c'est ça.
On en parle.
Ouais.
C'était les premiers jeux que j'ai regardé à la télé, donc forcément. Ouais, voilà.
Et ben elle est toujours là.
Non, mais voilà, même si la fin est quelque part un peu triste, mais le fait qu'elle se qualifie déjà pour aller dans cette finale. Avec la manière, je trouve quand même, ça fait partie des belles choses et des belles émotions quand même.
En qualif, elle a fait son meilleur jet de l'année, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal.
Et bon, on connaît la fameuse malédiction du porte-drapeau. Hein.
Mais pour Florent Manoudou, ça a pas marché.
Ah oui, mais ils étaient deux, donc il y avait une chance sur deux. Ah,
c'est pas faux. On va parler un peu des Angevines, puisqu'il y a pas forcément beaucoup de Angevins qui participent aux JO. On fera plus un bilan global en fin de semaine, justement, sur tous les Angevins qui ont participé à ces JO ou les anciens Angevins, parce que il y a du beau monde. Notamment, on va donc revenir sur Amandine Brossier qui, on l'a vécu en direct, a disputé le relais 4x400 mètres mixte avec l'équipe de France. Malheureusement, ce relais qui n'a pas pu faire mieux avec une cinquième place, sur la piste du Stade de France. Et finalement, après l'émission, le relais a été disqualifié après un mauvais passage de témoin. On n'a pas une nouvelle de la radio, donc apparemment... ça, on s'est pas fait taper sur les doigts pour finir à 21h02. Donc, ça va.
Mais tu vois, je savais même pas qu'il y avait eu une disqualification.
Ouais, ça s'est tombé quelques minutes après.
C'est passé vraiment en mode soum-soum, hein.
C'est ça.
Ouais, mais rien après sur la finale. Tu vois, on s'attendait à quelque chose de plus gros, tu sais, par rapport aux qualifs et aux séries, je veux dire. Mais quand tu vois le relais hollandais qui fait, enfin, avec Fake Ball,
le retour est dingue.
Le retour est dingue. Donc, déjà, c'était une sacrée perf d'aller en finale, en plus, tu l'as dit, en plus, en dernière minute, il y a eu ce changement de relayeur. C'était même plus Théo Andan qui était dedans. Donc, du coup, c'est vrai que d'habitude, c'est lui qui fait partie de ce relais. Et je me souviens d'avoir vu la Diamond League à Monaco sur la télé. Et en fait, il en parlait de ce relais en disant qu'il nourrissait de gros espoirs.
Ouais.
Donc, c'était assez surprenant de voir ce changement. Il a dû se passer quelque chose peut-être de l'autre côté. Mais il n'y a pas de regret à avoir sur le fait de, bon, après, c'est sûr, le petit regret, c'est de pas avoir un temps final.
Ouais,
mais bon, c'est comme ça.
On retrouvera néanmoins l'Angevine vendredi prochain avec le relais 4x400 mètres féminin. Les séries qui sont prévues à partir de 10h40 et si finale il y a, la course sera lancée samedi soir à 21h22. Et puis, c'était aujourd'hui le début de la compétition olympique pour la kayakiste de l'ESAC, Vanina Paoletti. Après avoir terminé quatrième des séries, le tandem qu'elle forme avec Manon Austin sur le K2 500 mètres s'est finalement qualifié pour les demi-finales avec une deuxième place sur les quarts. La demi-finale est prévue à partir de 10h50. Vendredi sur le plan d'eau de Vers-sur-Marne. On garde un œil sur le Stade de France et sur l'athlète puisque Louise Maraval qui avait participé à ce 4x400 mètres mixte va bientôt démarrer sa demi-finale. Mais avant ça, on va tranquillement revenir sur le basket et cette victoire donc des Bleus face au Canada. On avait forcément un Faustin pessimiste après le match contre l'Allemagne, les Allemands qu'on va retrouver en demi-finale qui ont battu la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé, Faustin, raconte-nous tout sur ce match. Qu'est-ce qui a fait qu'on a inversé la tendance?
Bah, il y a eu des changements. Des changements déjà dans le 5 de départ, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a inquiété aussi au départ. Bah, parce que chaque match on changeait de 5 de départ et ça fonctionnait pas. forcé de constater que ici ça a fonctionné, mais aussi des choix forts dans l'utilisation de certains joueurs, surtout dans la non-utilisation de certains joueurs, hein, comme bah, Mathieu Strazel, Nando Colo, qui n'ont pas joué une seule minute, et certains qui ont très peu joué, comme Rudy Gobert ou Bilal Koulibaly. Et c'est un peu ce dont j'avais parlé là, samedi dernier, où un match de basket, ça ne joue pas à 12, ça joue plus à 8 ou 9. Et Vincent Collet, c'est ce qu'il a exécuté, et bah, ça a très bien fonctionné. On a eu aussi des factoristes qu'on n'attendait pas, notamment bah, Isaiah Cordinier, qui a mis complètement le feu à la salle dès le premier carton.
Ouais,
c'était fini à 22 points dès le premier carton, là où il nous envoie deux shoots en transition complètement incroyables. Je me suis levé de mon canapé, c'était fou. Et ensuite bah on a vu un Victor Wembanyama aussi en dessous. Ouais. De ses habitudes, on a eu du mal à le servir, mais il a plus joué poste 5. Du fait que Rudy Gobert n'est pas beaucoup joué. Ouais. Et celle-là, on le cherche plus, notamment à San Antonio. On en parlait aussi la semaine dernière, samedi dernier. Mais il a été bon ailleurs. Il a fait 5 passes décisives. Il a eu l'impact en défense. Il a capté beaucoup de rebonds. On a d'autres joueurs qui ont pu scorer. Gershon Yabusele, Mathias Lessort qui a provoqué je ne sais combien de fautes. Et c'est de ça dont on a besoin. On a su se raccrocher à ce qu'on avait. On a été beaucoup plus agressif aussi. Ça c'est énorme parce que on l'est pas d'habitude contre le Canada, contre l'Allemagne, on se fait agresser comme jamais. Et là on les a bouffés ces Canadiens.
Les a bouffés. Il y en a une autre qui a fait une belle performance.
Le score mais par la taille aussi.
Ouais, bah, oui, c'est ça. Le secteur intérieur est énorme. Hein,
Je reviens en direct avec cette énorme performance de la part de Louise Maraval qui termine deuxième de sa demi-finale. Florian, tu regardais ça aussi?
Ouais, elle est qualifiée.
Du coup. Incroyable de la part de la Française.
C'est les deux premiers de chaque série, plus les deux meilleurs temps qui vont dans les huit en finale. Donc,
une très grosse course hein, de la part
ouais,
de...
C'est vraiment... Après, c'est l'une des Françaises qui pouvait être au niveau. On l'a oublié, c'est vrai que quand on en a parlé un peu samedi, on avait évoqué rapidement deux, trois noms. Mais c'est vrai que Louise Maraval avait fait de fortes impressions au championnat de France, ouais, à Angers. Et là, elle répond présent. De toute façon, après, pour aller chercher une médaille, ça sera très dur. Mais
oui,
intégrer les huit pour ses premières... pour sa première Olympiade, c'est très bien.
Ouais, puis elle avait l'air d'être plus relevée cette série-là comparée à celle juste avant où il y avait une Française aussi.
Exactement, ça avait l'air. Après, Shana Grebo, elle était passée par les repêchages, elle aussi.
Et ça va passer pour elle.
Elle finit quatrième de sa série, donc ça va être vraiment au temps qu'elle peut peut-être passer. Mais là, j'ai l'impression que ça a été plus vite.
Ouais.
Bon, on verra ça pour.
On a une Française en finale du 400 mètres. Oui.
Voilà. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal.
C'est très bien.
Belle perf de la part.
On va le savoir très vite.
De la Française.
Si les deux sont qualifiés, quoi.
Oui, voilà.
On verra ça. Donc, on revient sur le match de basket. Donc, France-Canada, cette qualification en demi-finale du tournoi olympique. Florian, toi, qui a aussi pu voir le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui a changé aussi par rapport au point faible de l'équipe de France?
Bah déjà l'intensité, quand tu mets de l'intensité, que déjà avant le tournoi, Vincent Collet et l'équipe expliquaient qu'ils voulaient être l'une des meilleures défenses du tournoi. Donc ça s'était pas vu face au Japon, ça s'est pas vu face au Brésil, ça s'est pas vu face à l'Allemagne. Par contre, ça s'est vu ce soir contre le Canada, parce que tu les limites vraiment fortement. Alors après, tu prends le bouillon que sur un joueur, sur Gigius Alexander, mais après c'est pas grave en fait au final, parce que du coup tu l'as laissé scorer, ok, mais derrière t'as aussi essayé de tenir RJ Barrett, enfin d'autres joueurs qui sont très intéressants et très forts aussi offensivement. On aurait pu citer aussi Lugans Dort et Dylan Brooks, mais voilà, ça fait plaisir à voir. Je suis assez surpris, j'ai pas vraiment les mots parce que je m'attendais pas du tout à ça.
Ouais.
Quand tu vois les matchs de préparation puis après les trois matchs de poule, on n'a pas vu la même équipe. Je pense réellement, par contre, que j'ai regardé beaucoup les temps morts. Alors après, peut-être que je me trompe. Je suis derrière ma télé, je suis pas à la salle et j'entends pas tout ce qui se dit. Mais j'avais l'impression que Vincent Collet était un peu plus en retrait, laissait beaucoup son staff aussi gérer.
Ouais.
J'ai beaucoup vu Kenny Atkinson, l'ancien coach NBA, enfin qui va coacher une équipe d'ailleurs cette année. Je sais plus laquelle c'est, faut que je regarde. Mais il revient en tant que coach principal. Mais il était aussi là, bien plus présent, à parler aux joueurs, même tout le reste du staff. Voilà, je pense que Vincent Collet a bien compris qu'il fallait aussi ouvrir un peu à tous les membres du staff pour qu'ils puissent avoir leur part, et c'était assez intéressant à voir.
Mathéo, t'as aussi pu voir le match, qu'est-ce que t'en as pensé? peut-être un peu moins fan de basket, mais
ouais, bah justement, je vais remettre le même message que j'ai mis dans le groupe. Voilà, ouais. En tant que consommateur minime de basket, je me suis régalé. C'était assez fou. J'ai loupé les 5 premières minutes parce que je me préparais pour partir, mmh. et je regarde le score et j'étais bluffé parce que avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu aussi de cette équipe de France sur ce début de tournoi olympique, c'est assez choquant. Franchement, je pense que personne n'a pu parier sur ça, surtout qu'à la fin, on met un plus 9. Donc ouais. Ça c'est quand même à noter aussi au-delà de la victoire. Et puis après je trouve qu'en fait on peut trouver une similarité sur tous les sports collectifs un petit peu de ces JO, des équipes qui se réveillent. Je pense au volley par exemple, on commence à avoir une certaine forme collective. Au football c'est un petit peu pareil, au handball peut-être, mmh. on verra. Mais en tout cas super content. Et maintenant j'ai envie de poser une question: est-ce qu'on va pouvoir choper une médaille en basket? Est-ce que on peut le faire? Et franchement, ça serait
très bien. C'est ma question. Faustin, Florian, qu'est-ce que vous en pensez?
Si on sort le Canada et la prestation qu'on sort en plus, c'est carrément prenable. Moi, je pense aller chercher une finale, ça se fait. Pourquoi pas? Battre les États-Unis, ça me paraît impossible, hein, qu'on soit d'accord. Mais ouais, une médaille de bronze ou même d'argent, carrément. Moi, j'y crois. Maintenant, au vu de ce que j'ai vu ce soir.
Et est-ce que la rédemption de Vincent Collet passe par une médaille d'argent ou une médaille de bronze? C'est ça la question également.
Il est tiraillé parce qu'il veut pas la rédemption de Vincent Collet. Mais il veut quand même que la France gagne.
Après, tu peux faire finale et dire au revoir à ton coach. Hein. Ça, oui, c'est déjà vu par le passé.
Bah, avec l'équipe de France de foot, c'est plutôt la, voilà.
Exactement. Mais après, je pense que peut-être que Faustin sera d'accord avec moi, mais la finale, c'est jeudi soir, en fait. C'est la demi. Tu fais le gros match contre l'Allemagne et puis après tu t'offres un match de gala samedi face aux États-Unis. Voilà.
Et sur un malentendu, ça peut passer.
Non, les mecs, c'est les Avengers en face.
Ouais, mais. Non, mais. Thanos, il a battu les Avengers une fois.
Ouais, d'accord, mais.
Il n'y a pas Thanos.
Il n'y a pas Thanos dans l'équipe.
Hein. Avec Vincent Collet, c'est pas Thanos. Et encore.
Et puis à la fin, il meurt, Thanos.
Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est dans le deuxième film.
Mais après, voilà, c'est. Enfin. Tout va dépendre de quelle intensité tu mettras dans ce match jeudi soir contre les Allemands. C'est juste ça en fait. Et je pense que Wayne Banyama, il peut pas passer deux fois à côté de son match parce qu'on l'a dit, offensivement, il a pas été au rendez-vous ce soir. Après, dans d'autres secteurs, Faustin l'a dit tout à l'heure, avec les rebonds, les interceptions, les contres, même les passes, parce que je crois que c'est le meilleur passeur de l'équipe ce soir.
Il finit à 5. Je sais pas si c'est le meilleur, mais il finit 5.
Mais donc voilà, donc il fait pas un gros match offensivement. Ouais. Donc si tu récupères un Wayne Banyama. Parce qu'il est dans ses standards, hein. Je veux dire, quand tu regardes défensivement, enfin au niveau des rebonds, c'est les mêmes rebonds que sur les trois premiers matchs, même dans les interceptions, dans les contres aussi, c'est pareil. Donc c'est juste offensivement où il a pas pu apporter. Mais
je... 0 sur 6 à 3 points.
Ouais, il y a eu beaucoup de déchets, même sur la ligne de lancer franc. Il y a eu du déchet. Donc
on verra, comme c'est vraiment ses premiers gros championnats. Ça, faut voir en fait comment il digère ses matchs.
T'as raison.
Il y a ça aussi, hein, qui rentre comme facteur. Bien sûr, il joue en NBA. On va dire oui, mais il a l'habitude de la pression. Mais là, c'est pas la même pression. C'est vraiment de la centenaire. C'est à domicile.
C'est un pays, là.
Ouais. C'est ça. Il était attendu un peu comme le Messi. Enfin, il y a beaucoup de petites choses à côté qui...
Pas les mêmes règles aussi, hein. Pas les mêmes règles. Là, tu vas jouer tous les deux jours. Parce que là, tu rejoues jeudi, puis après, tu rejoues samedi. Et puis là, c'est la guerre, hein, c'est l'intensité de malade, hein, quand tu vois le match, même les Canadiens, je veux dire, dans la raquette, quand tu voyais, et que tu vas avoir contre les Allemands, ça sera la même chose avec les frères Wagner, et on n'en parle pas des États-Unis si tu vas en finale derrière. Donc on va prendre match après match, on va pas s'enflammer, on les avait descendus samedi.
Oui, c'est ça.
donc on sait jamais. On peut peut-être recommencer, hein, ça a l'air de marcher.
Petite question subsidiaire très rapide, parce que du coup, l'Allemagne, ça peut être compliqué, les États-Unis aussi, il y a un troisième larron dans ce dernier carré, c'est la Serbie. Si jamais il y a un match pour le bronze face à la Serbie, pareil, quelle tendance par rapport au bleu? C'est compliqué parce qu'il y a Jokic, hein, donc on rappelle.
Il y a Jokic, il y a plein d'autres super joueurs, hein.
Oui, de Rolling, etc.
Vice-champion du monde, en titre. Donc, ce sera au moins aussi dur que l'Allemagne.
Donc, on a un gros dernier carré, quoi. C'est l'élite du basket mondial.
Ouais, clairement.
Après, il y a une équipe qui est en finale directe. Enfin, oui, voilà.
Qui
est championne olympique même direct.
On leur donne la médaille en direct.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Serbie, ils ont déjà joué les États-Unis en poule. Et en fait, dès que Jokic, il est sorti, enfin, la stat, elle est folle. Quand Jokic est sur le terrain, Serbie, États-Unis, ça fait 81 partout. Voilà. Quand Jokic sort juste pour se reposer, pour retourner un peu l'effectif, et ben au final, il y a 20 points d'écart, quoi.
Bon, on verra ça pour l'équipe de France.
Enfin, en tout cas, le prochain match, c'est aussi une réaction d'orgueil.
Tu ouais, peux non, pas,
une revanche. Une grosse, grosse revanche. Hein. Avec tous les matchs de préparation qu'on perd contre l'Allemagne, tout ça. Enfin,
on avait gagné un, le premier.
Oui, voilà, mais bon, c'est...
Non, mais c'est-à-dire que c'est possible, quoi.
C'est toujours possible, mais après, je crois que c'était pas forcément la grosse équipe allemande sur le premier
manquait,
match.
Il manquait voilà. Franz Wagner à ce match-là.
D'accord. Ah oui.
Bon, on verra ça pour l'équipe de France de basket. On continuera de les suivre et on verra si samedi, on aura une médaille à fêter pour la bande à
Rigobert. Ils peuvent s'inspirer du 3-3.
Exactement, ce sera pas
mal.
Il y a
des choses à apprendre d'eux sur le pick and roll, notamment.
Oh, il l'a dans comme ça.
Alors, on va lancer une prolongation de l'émission. Hein, parce que...
Vincent Collet, si tu nous entends.
Retrouvez ça en exclusivité sur notre podcast. Comment l'équipe de France va-t-elle se ressaisir?
On va donc passer à la pause musicale. Et comme on est un petit peu chambreur, on va mettre un rappeur canadien avec Drake.
T'as voulu vraiment chambrer, tu mettais Camaro.
Camaro?
Et oui, Camaro est canadien.
Ah ok, je ne savais pas. Bah c'est une info que tu me donnes, je me coucherai mon bête. On va s'écouter donc Drake et son titre Started From The Bottom et on va se retrouver juste après.
Started. Down the on the track. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, told you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining.
De retour sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes toujours en compagnie de l'équipe de Génération Sport pour la grande soirée des Jeux. Et l'équipe va désormais bientôt être au complet avec Clément qui nous a rejoint. Salut Clément, est-ce que tu m'entends bien?
Oui, je vous entends bien. Salut Alex, salut à tous. En direct de la fan zone des JO, en face de la Tour Eiffel au Trocadéro, c'est magnifique.
On veut une preuve, on veut une preuve.
Je vous enverrai ça sur le groupe juste après.
En tout cas, effectivement, tu es donc, je le rappelle, à Paris pour les JO. Rappelle-nous quelles épreuves tu es allé voir.
Alors, je suis allé voir le golf vendredi avec un Français, Victor Pérez, qui a assez bien performé puisqu'il a quand même... fini quatrième au classement général. Nous, on a vu une très belle journée. On l'a suivi tout au long de la journée. C'était vraiment sympathique à voir. Ensuite, je suis allé voir le vélo, la course cycliste. J'étais dans la rue Le Pic. Donc, j'ai pu voir Valentin Madouas à l'attaque devant avec Remco Evenepoel. Donc, assister à deux pseudo-médailles puisque j'étais pas à l'arrivée, mais j'étais dans la, je les ai vus, donc c'était quelque chose de magnifique d'assister à cette course de vélo avec une telle ambiance. Et puis je suis allé au hockey sur gazon hier pour voir deux matchs deux quarts de finale féminin opposant l'Australie et la Chine, et la Chine en est sortie victorieuse 3-2. Et Argentine Allemagne où l'Argentine a gagné au penalty, c'était assez impressionnant à voir.
Et oui.
Et du coup, il me reste le canoë-kayak. Donc, pourquoi pas voir Vanina Paoletti mercredi dans la journée.
Alors, sa demi-finale est prévue, je crois, vendredi, mais pourquoi pas.
Ah oui, oui, oui.
En tout cas, tu parlais de la fameuse rue Le Pic. C'était à Montmartre, c'est ça?
C'est ça, j'étais en bas de la butte Montmartre. On est arrivé un peu tard, donc on n'a pas eu une super place, mais c'était vraiment...
L'ambiance, elle était folle, on a vu les images, c'était complètement fou ce que tu as assisté.
Oui, c'était vraiment quelque chose, et en plus, il y a Nils Polit, je ne sais pas si vous avez vu les images, qui s'est arrêté à 100 mètres de moi pour aller dans un bar faire ses besoins naturels. C'était très drôle, on l'a tous acclamé, et c'était un super moment, et franchement, l'ambiance... J'ai rarement vu ça, moi qui suis allé plusieurs fois autour de France. Là, avec la résonance des petites rues, c'était vraiment magique.
Et sur le reste des épreuves auxquelles tu es allé, pareil, l'ambiance, comment elle était?
C'est vraiment quelque chose. Les Français qui sont tous en train de pousser derrière, par exemple, Victor Pérez, il y avait peut-être 3 000 personnes à chaque fois qu'il était sur le green, qui l'encourageait, qui criait des victoires. Franchement, les étrangers qui rentrent dans les ambiances, qui vont faire des clappings, tout ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Et puis, il y a du monde partout, avec des drapeaux. La France est vraiment représentée d'une manière... Je m'attendais pas à autant de ferveur.
Oui, parce que surtout qu'au golf, généralement, c'est quand même une ambiance... assez calme, quoi. Quand il y a vraiment des beaux coups.
Radar Cup coup, aussi,
voilà, oui. Sur la Ryder, il y a un petit peu plus d'ambiance, mais c'est vrai que, généralement, on va pas dire que c'est le calme plat, mais on n'en est pas loin, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et là, vraiment, il disait, à la Ryder Cup, qu'il y avait plus d'ambiance, parce qu'il y avait le double de personnes. Là, il y avait à peu près 30 000 personnes attendues. Et à la Ryder Cup, 60 000. Donc, c'est sûr qu'il y avait moins d'ambiance qu'à la Ryder Cup, mais c'était quand même quelque chose. Et franchement, ça donnait limite la chair de poule quand il rentrait des beaux putts.
Et t'en as pensé quoi justement de ce parcours de golf?
Il est assez compliqué ce parcours parce que il y a beaucoup de les fairways, donc les endroits où avant le green, là où il y a le trou, donc ils sont assez vallonnés et c'est assez compliqué de rester sur ce fairway puisque par exemple je pense à Victor Pérez qui à un moment a dû carrément il était à 10 mètres de moi pour tirer son coup parce que il est sorti des limites, enfin pas des limites réglementaires mais sorti du fairway du coup, et donc il a tiré son coup juste devant moi, et il y a beaucoup de d'endroits comme ça où ils ont été obligés de sortir de ce fairway pour jouer des bons coups. Donc c'était assez impressionnant.
Et on parlait de l'ambiance, est-ce que tu as pu aller notamment au Club France ou pas?
Non, c'était malheureusement plein, mais là je suis dans une sorte de Club France, c'est pas vraiment un Club France, ça s'appelle le Parc des Champions, et c'est les médaillés qui viennent aussi montrer leurs médailles. Malheureusement, on est arrivé un peu trop tard aujourd'hui, on a pu voir quand même Enzo Lefort, Maxime Chaussinant,
Maxime Botti.
J'ai perdu son nom.
Maximilien Chassanet.
Oui, voilà, c'est ça, Maximilien Chassanet. Avant, il y avait Léon Marchand, notamment, que j'ai raté de peu, mais on aurait pu les voir. Et puis là, il y a une bonne ambiance parce qu'il y a 4 écrans géants où, c'est là où la cérémonie d'ouverture s'est passée, donc ils ont laissé les tribunes. Et donc il y a 4 écrans géants où j'ai pu regarder le match de basket. Il y avait une ambiance de folie. C'était assez cool, surtout quand Evan Fournier marque son 3 points là de 10-15 mètres. C'était vraiment super.
Oui, c'est vrai.
La flamme olympique du coup.
La flamme olympique, j'ai pas eu l'occasion de la voir, mais je vais sûrement y aller demain. J'ai eu des retours et je l'ai vu de loin et. Franchement, c'est assez bluffant de voir tous ces sites réservés pour du sport, les Champs-Élysées pratiquement qui sont où il n'y a aucune voiture, on peut s'y balader avec plein de stands consacrés aux JO, les Tuileries, la place de la Concorde, le Grand Palais, on mesure encore plus l'ampleur de ces monuments quand on y est, quoi.
Ok, les gars, est-ce que vous avez des questions autour de la table, Faustin? Tu peux peut-être parler à Clément quand même. T'as pas de questions.
Il nous a dit tout à l'heure qu'il t'en voulait de pas l'avoir invité.
Ouais, ouais, je suis sûr que t'as des places pour moi, tu me l'as pas dit. Non, mais enfin. Ouais.
Non, parce qu'il n'y a pas de questions. Bah, c'est
non,
pas
mais
grave.
Non, mais non.
Je sais pas, la vasque, c'est si lourd parce que tu l'as vu monter dans le ciel de Paris.
Sûrement ce soir, du coup, parce que on va faire un peu Paris by night. Du coup, sûrement que je vais voir cette montgolfière s'élever. Ça va me rappeler un petit peu Avrier avec la montgolfière de Terra Botanica.
J'allais faire le parallèle.
Il y aurait des inspirations. Hein.
Ouais. Oui, avancer sur la question. tu verras, tu nous diras si c'est mieux ou pas que la montgolfière de Terra Botanica.
Je pense. Ouais, je pense.
en tout cas, donc tu rentres quand sur Angers?
Après je prolonge mes vacances, on va en Suisse.
Ok, bon, tu te fais kiffer, t'as bien raison.
Ouais, voilà, donc je rentrerai d'ici le 25 août, donc.
T'as prévu le gros sticker pour accrocher sur la vasque quand tu vas monter, écouter Radio G, Génération Sport tous les mardis.
Ouais, j'ai prévu ça. C'est dans mon sac, ça va être installé sur la montgolfière, pas de problème.
Ok, très bien, parfait. On te remercie beaucoup, Clément.
De rien.
Merci surtout d'avoir été avec nous dans Génération Sport, dans la grande soirée des Jeux. On te dit à la prochaine pour une prochaine émission. Et puis, on va te laisser donc profiter de ces JO jusqu'à ce que tu quittes la capitale. Ouais. Bonne soirée à toi.
Et médaille.
De quoi?
Et ramener des médailles aussi.
Oui, essaie de ramener des médailles, oui.
Parce que ramène les champions qui vont avec, comme ça on les interview.
voilà, c'est ça.
Et écoute, si tu peux faire 2-3 contacts, on est pas contre. Bon, allez, on va te laisser. Allez, passe une bonne soirée, Clément. Allez,
bonne soirée à vous aussi.
Bonne soirée. Allez.
Bonne soirée.
Ciao.
Allez.
Bon, il y avait déjà un peu d'ambiance qui était présente.
On pourrait dire. On y était.
On y était. On a eu notre envoyé spécial et moi je trouve ça claque. le sentiment de Clément sur ces quelques jours à Paris pour les Jeux Olympiques. On va changer du tout au tout en parlant donc de l'actu des sports collectifs avec donc un petit point qui va être fait donc sur les différentes aventures des Bleus. Alors on l'a dit évidemment le basket 5x5 s'est qualifié pour la demi-finale, on a bien assez dit. Hier, les footballeurs de Thierry Henry l'ont emporté 3-1 en prolongation contre l'Égypte. Ils ont eu du mal à se défaire des Égyptiens, doublé de Jean-Philippe Mateta et but de Michael Olise. Et la finale donc sera à venir vendredi soir au Parc des Princes contre l'Espagne.
Mathéo, avec un Titi qui s'est lâché quand même.
Ah, il a dansé comme il fallait. Là. Il a bien célébré.
Il nous a régalé. Hein.
Mathéo, qu'est-ce que t'as pensé de la demi?
Écoute, un réveil d'orgueil encore une fois, hein, parce qu'on a été quand même pas assez bon depuis le début des Jeux Olympiques par rapport à l'effectif qu'on a, par rapport aux joueurs qu'on a. Là, ça, c'est ce qui a fait la différence aux prolongations. On a vu que les Égyptiens étaient rincés de chez rincés. Même à partir de la 80e minute, ils faisaient plus les contres. Ils jouaient plus, en fait, concrètement, sauf peut-être les occasions qui en valaient la peine. Donc, on a vu de très belles choses dans ce match. C'est un petit peu comme au basket, c'est-à-dire que depuis le début de la compétition, la défense était quand même pas terrible. Et puis au final, au foot.
On a pris qu'un seul but.
Oui, mais défensivement c'était chaud quand même. Okay. Quand on a une défense lookée babadée, que au final on donne ce genre de performance, on a eu quand même beaucoup de coups de chaud. Okay. Et là ça a été plutôt l'inverse. Ça c'est des Égyptiens qu'il faut louer quand même parce que
ils ont
été très bons et dès le début ils sont rentrés dans leur rencontre très très fort. Ils ont mené au score. Je pense que c'était concrètement ce qu'ils voulaient faire. Et puis derrière, je pense que la volonté c'était aussi de continuer à jouer. C'est vachement louable là aussi parce qu'ils se sont pas forcément arrêtés net non plus, en tout cas jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis de notre côté, je pense que on a la relève offensive des Bleus pour les prochaines années. Voilà, au revoir Ousmane Dembélé, bonjour Michael Olise, parce que le match qui nous a sorti
hier soir. Un message certains Didier Deschamps.
On l'avait dit avant l'Euro, on voulait voir Michael Olise.
Bien sûr.
On l'a pas vu. Là, on le voit au JO et on voit pourquoi on n'a pas gagné l'Euro aussi.
Oui. Parce qu'il manquait
surtout si on bat l'Espagne dernière.
Ouais. Oui, ouais, non, franchement, et puis on a vu pourquoi on n'avait pas d'animation offensive, parce qu'il nous manque ce genre de joueur qui est capable de faire la jonction entre le milieu de terrain et l'attaque, que ce soit dans tous les secteurs de jeu, à gauche, à droite, au centre. Ça a été hyper intéressant. Et puis voilà, il y a quand même des joueurs qui ont été en dessous.
Marc aussi.
Oui, ouais, Mateta a fait un super match. L'histoire de Mateta, elle est tellement belle, surtout au Groupama Stadium, lui qui est passé par l'OL, qui a joué deux matchs avant d'être prêté en Ligue 2 et puis acheté par Mayence. Donc ça a été fort. Il y a quand même des joueurs qui ont fait un très mauvais match, faut le dire quand même. Je l'aime beaucoup, mais le général a été vraiment très médiocre avant la 60e minute. C'est 8 duels perdus. Donc voilà, c'est assez parlant comme statistique. Et puis
vouloir trouver des excuses, il était cramé. Hein.
Ah oui, mais bon, voilà, il sort d'une grosse saison. Il a 33 ans, je crois. Ouais. 34, enfin c'est tout à fait logique. J'ai peur pour lui la saison prochaine, on va voir.
Mais il faut qu'il se remette. Faut le mettre dans un frigo, faut qu'il.
Il doit commencer.
On lui laisse 6 mois de vacances et puis il nous met 15 buts à la fin de la saison. On est très content.
C'est ça.
Et puis Désiré Doué aussi qui a fait une très mauvaise entrée. J'ose même pas imaginer l'acharnement médiatique si ça avait été Ryan Cherki. Je pense que ça aurait été assez violent parce qu'il a vraiment pas été bon, Désiré Doué.
Comme Ryan Cherki est quasiment pas rentré.
Voilà.
Au moins il n'y a pas eu d'avoir de comparaison. Bon,
exactement.
Voilà pour ce.
Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que voilà, l'entraîneur de l'Égypte avait déjà gagné les JO.
Oui. En 2016. Au Brésil.
Et ça se sent que quand même il a de l'expérience sur cette
compétition. Je pense que c'est sa compétition. Que à Los Angeles on va le revoir.
Parce que le plan clairement, son plan il a été appliqué à la lettre, hein, quoi. Le petit carton rouge il a fait du bien au final.
Oui. Oui, mais c'était dans l'air parce qu'en plus on en a pas parlé, mais le penalty non accordé à la France est assez litigieux en vrai.
Et
je trouve.
Surtout ils ont mis 10 minutes. C'était hyper long.
Il a vu l'arme. Je pense que l'arbitre a pas voulu faire le home advantage, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi.
Ouais, mais c'est hyper long.
Clairement, il y a péno, je veux dire.
Oui. En fait, je pense que tout le monde
après, je sais pas, parce qu'il y a un rebond sur la tête avant la main, donc je sais pas, mais.
En fait, tout le monde a pensé que, on visualisait, à la VAR par rapport à soit une faute, soit un pénalty potentiel. Et en fait, la question, elle est pas là. Je pense que c'est si il y a poussette avant ou après. Effectivement, il y en a une petite avant qui, pour moi, ne fait pas faute. Il y en a une plus grosse après qui ne fait pas faute non plus, ça c'est évident. Maintenant c'est sur ça que ça s'est joué, il a voulu rester sur sa décision. Au final ça fait quand même 3-1, c'est pas trop dommageable. Mais bon, ça nous met des prolongations en plus dans les jambes, à voir ce que ça donne pour la finale face à l'Espagne.
Mais même je trouve sur l'ensemble du tournoi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, je trouve que les décisions arbitrales, elles ont été très longues à être prise
comme le temps additionnel
samedi dernier, pour expliquer un peu aux auditeurs. Donc on est sorti d'émission après 21h, il y avait le match des Bleus, les féminines face au Brésil, et donc il y a eu un penalty pour la France qui pareil a mis 10 minutes. Un peu marseillais, mais voilà, au moins 5 bonnes minutes.
Non, mais ça a été très long.
À être tiré.
Un supporter de Lyon qui dit je suis peut-être un peu marseillais,
c'est enregistré.
Non, mais
Ce qui est sûr, c'est que ça a pris 10 minutes.
Ouais, c'est ça.
Et hier, ça a réellement pris 10
minutes. Très, très, très long. Et donc, voilà. D'ailleurs, justement, ça me permet de faire la transition parce que, effectivement, malheureusement, les Françaises, en football ont perdu 1-0 contre le Brésil à la Beaujoire. Donc voilà, le Hervé Renard qui quitte, la sélection féminine après donc deux compétitions plus ou moins ratées. Ça s'est joué à peu de choses sur la Coupe du Monde avec cette séance de tir au but complètement folle contre l'Australie. Là, bon, il y avait quand même si le Brésil a beaucoup défendu et agi en contre, il n'y avait pas assez techniquement du côté de la France.
Bon. Les Brésiliennes, elles pourrissent le match à la fin.
Oui, bien sûr. Enfin, ça, c'était dingue. 16 minutes
de temps additionnel. 16 minutes de prolongation, et même avant les prolongations, déjà, ça commence à jouer n'importe quoi. Enfin, quand on voit que, limite, ça fait un drop juste pour gagner du temps, envoyer j'ai trouvé ça. On parle d'esprit olympique. Là, c'était inexistant sur cette partie-là, en tout cas.
Pour les autres sports collectifs français, dimanche soir, défaite 79-72 pour les basketteuses françaises face à l'Australie, mais pas de souci puisqu'elles étaient déjà qualifiées et donc assurées d'être premières de leur groupe. Quart de finale à venir, donc demain à 18h, encore une fois, contre l'Allemagne. Pour les handballeurs français, on a longuement parlé, je vais faire très rapide là-dessus. Victoire 24-20 contre la Hongrie, c'était hier, ou hier ou dimanche. Hier. Non, dimanche plutôt, je crois. Dimanche?
Hier,
ok. Les Bleus qui ont sauvé leur peau dans le tournoi, donc quart de finale à venir, devinez quoi, contre l'Allemagne, demain à 13h30. Et puis les Françaises, les handballeuses françaises qui se sont qualifiées encore contre l'Allemagne, 26-23, il y a beaucoup de France-Allemagne. 26-23, donc une place en demi-finale pour celles qui sont les favorites de leur compétition. Et puis, un dernier France-Allemagne, allez, vous en reprendrez bien un petit peu. En volleyball, victoire 3-7-2 des volleyeurs français, après avoir été menés 2-7-0. Une rencontre complètement dingue. Florian, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, c'était assez fou.
Assez fou. Mené 2-7-0, tu l'as dit, et on a vu des Allemands qui ont posé beaucoup de problèmes aux Français, notamment dans l'intensité dès le départ, avec des gros services qui gênaient la réception française. Et au final, l'expérience de ce groupe, parce que c'est quand même un groupe qui se connaît depuis un petit bout de temps, il y a des joueurs qui sont là depuis une bonne dizaine d'années presque maintenant, et donc, même s'il y a des petits nouveaux, dont Théo Fort là, qui s'est bien révélé sur ce quart de finale. Bah, on revient de très loin et le prochain match ce sera pas France-Allemagne du coup, ça sera France-Italie du coup.
C'est ça. Et avec ta belle famille,
ça va être très dur. Ouais. Voilà. Mais bon,
ça va être
on reste français quand même.
On reste français et on verra donc.
Et chez les filles, par contre, rapidement, elles ne trouvent même pas 20 secondes. Élimination au premier tour. Enfin,
on en avait parlé.
Voilà, c'est normal. Elles ont joué les États-Unis dimanche. C'est leur meilleur match. Elles perdent 3-0, mais elles font leur meilleur match contre les États-Unis face à des États-Unis qui tournent un peu dans l'effectif. Mais voilà, c'est normal.
Ça reste une bonne promesse pour peut-être au niveau européen.
On crée quelque chose, voilà.
On va partir maintenant du côté de l'athlétisme avec donc cette finale du 100 mètres qui était très attendue. Déjà chez les féminines, c'est l'athlète de Sainte-Lucie, Julian Alfred, qui s'est imposé en 10 secondes et 72 centièmes. Et puis chez les hommes, c'était aussi très attendu la victoire sur un fil, que je dis sur une épaule, de Noah Lyles qui a remporté donc cette finale en 9 secondes et 79 centièmes. Et pour vous dire un petit peu la vitesse de cette finale, le dernier est à 9,91. Donc c'était assez compact.
C'est la finale la plus rapide de l'histoire.
Donc c'était assez impressionnant. Justement, par rapport à ça, les gars, sur le 100 mètres, on parlait, je crois, un petit peu samedi de la hype qu'il y avait un peu en moins par rapport à les époques de Bolt, Blake, Gatlin, voilà. Est-ce que justement Noah Lyles, c'est peut-être le visage de l'athlétisme aujourd'hui?
Peut-être, potentiellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y avait moins de hype, dans le sens où c'était beaucoup plus compact. Hein. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est Sevy, le coureur jamaïcain qui était très attendu, qui a fini huitième. Il a fini huitième quand même. Donc c'est assez parlant sur ce fait-là. Et puis oui, Noah Lyles, c'est difficile de pas l'aimer. J'ai entendu les commentateurs justement à la fin du 100 mètres, personne n'a cité son nom. Et au final, c'est lui qui réussit à la fin. C'est une belle image. Et je pense que nous, les Européens, on l'aime plus que les Américains.
Ouais, c'est celui quand même qui arrive sur la piste en étant déchaîné. Pile électrique, t'as l'impression qu'il a fait un 150 mètres parce qu'il arrive sur la piste, il fait 50 mètres à fond pour être content d'être là. Donc
il a annoncé la couleur en toute façon.
Bien sûr, il avait dit qu'il allait faire le quadruplé. Non, il est bien parti. Et franchement, il est beaucoup plus à l'aise sur 200 et tu le vois en fait dans sa finale du 100 mètres parce qu'il finit en boulet de canon. Et sur le 200, il sera beaucoup plus à l'aise.
Il fait un mauvais départ.
Mais c'est fou. Après, si pour moi, il y avait quand même plus d'attente et plus de show à l'époque. Avec des noms qui claquaient, je veux dire, quand t'avais sur une finale Usain Bolt, Justin Gatlin, Tyson Gay, Asafa Powell et Yoann Blake. Christophe Lemaitre, évidemment. mais voilà. Donc sur le 100 mètres, en tout cas, c'était. Je pense qu'il va faire du bien, Noah Lyles. Il est clivant comme garçon, et je pense que c'est ce qu'il faut aussi pour l'athlétisme, des garçons un peu clivants, pour amener un peu le coureur norvégien en ce moment, Ingebrigtsen. Il est champion olympique du 1500, mais il est clivant. Il a un boulard monstre, il a un melon monstre. Mais le gars, il répond présent à chaque fois. Et là, il est en tête avec Josh Kerr sur le 1500. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que pour l'athlétisme, pour ressortir un peu de cette légère anonymat suite post-Usain Bolt, il faut Je dis ça, mais ouais. Il est en train de craquer fortement.
Il nous fait un live en direct.
Mais, il est quatrième, voilà.
Et bah, merci Florian.
Il est quatrième de la finale 2500. Incroyable. Mais
il faut des mecs comme ça.
C'était lui le favori, mais il en faut des mecs comme ça, non, clairement. Mais... Je pense, oui, vraiment, il faut des mecs comme lui, parce que tu vois ce qu'il y a hier du Plantis, ce que fait du Plantis hier à la fin. C'est phénoménal. Ouais, il faut des mecs qui font le show. Comme il l'a fait lui, comme Edgar Braxton, bon, qui perd ce soir, comme Noah Lyles, chez les femmes, c'est pareil, hein, quand tu regardes la hauteur femme avec l'Ukrainienne Maouchik, c'était quand même assez beau à voir.
Tom Berry, on en a parlé.
Tom Berry, il est un peu...
Oui, non, mais je veux dire, pour le visage de la...
Complètement.
C'est un showman.
C'est un showman. Après 32 ans, Tom Berry.
Oui, c'est vrai. On le
32 ans, et en plus, il est un peu malade.
Bah là, oui.
Il retarde un peu son arrivée sur Paris. Donc,
il est arrivé, je crois, hier ou aujourd'hui.
Ouais, je sais pas, mais.
Quelle photo finish.
Ah ouais, cinq millième, hein. Il est sacré champion olympique pour 5 millième.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des écarts aussi.
Face au Jamaïcain Thompson. Voilà. Et puis justement sur la perche, parce que c'est deux mecs qui se sont pris dans les bras hier, je crois, avec Mondo Duplantis, le record du monde, 6m25, il le bat pour la 9e fois. C'est assez monstrueux. Faustin, on t'a pas encore entendu sur l'athlé. C'était une performance complètement dingue hier.
Bah ouais, en plus il a mis le suspense parce qu'il le passe qu'au 3e essai, son record du monde. Il l'avait loupé au championnat d'Europe alors qu'il l'avait tenté. Il roule sur la concurrence. On démarre la compétition, on sait qu'il a déjà gagné. 6 mètres, il gagne. Il va quand même chercher 6m25. C'est
avec une telle aisance.
Il a de la marge.
À deux sauts pour se qualifier, quoi.
Non, mais c'est complètement dingue.
C'est des sportifs qui provoquent des scénarios aussi. C'est ça qui les rend légendaires aussi. Ouais.
C'est vrai que c'est très fort de la part du Suédois.
Et on est toujours là. Ouais, il pourra pas aller plus haut,
Oh si, on y croit.
Un jour, on va le trouver à 7 mètres.
Il est malin parce qu'il
va atteindre l'ISS.
Descendre cet immeuble.
Si ça se trouve, il en a beaucoup plus dans les jambes. Il est capable de passer plus haut.
Ah oui,
mais il faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que tu prends un centimètre de plus, c'est une prime.
Voilà, donc il va sûrement faire centimètre par centimètre.
Ouais, mais le battre aux Jeux Olympiques, c'est beau.
Non, oui, par contre.
Ah oui, bien sûr, au Stade de France.
Devant 80 000 personnes. Tu te dis quand même, il n'y avait plus de compétition hier, en fait, à ce moment-là.
Bien sûr.
Il y avait plus
le
rien.
Le deuxième est à 5m95, donc à 30 cm.
Ouais, c'est énorme, c'est lunaire. Donc, et c'est là où tu te dis que ça me fait repenser à ta petite vanne sur les collets de samedi. Mais le record perso de Thibaut Collet, c'est 5m95, quoi.
Ouais, c'est dommage.
Donc, clairement, il y avait la place pour une médaille. Mais bon, voilà, trop de pression. On parle beaucoup de home advantage, mais je pense que lui, il s'est mis une pression de dingue pour les
deux. Il y en a où c'est soit l'un soit l'autre, hein, clairement.
Le français, il avait trop de pression, mais au mauvais endroit.
Il y en a un autre, oui.
Oula.
C'est un Mirati.
On ira pas sur
ce terrain-là. Mais si vous voulez aller voir, il y a les réseaux sociaux, quoi. Ça fait le tour des États-Unis.
Il y a des images, c'est pas nous qui l'avons inventé.
C'est le problème de la perche. On va revenir sur les Français avec les peut-être chances de médaille, hein, les maigres chances de médaille qu'on a, avec seulement deux Français, notamment pour expliquer un peu à nos auditeurs, qui sont dans le top 3 des meilleures performances de la saison. C'est en 800 mètres masculin avec Gabriel Tual, avec cette finale qui aura lieu samedi pendant l'émission. Et puis également Sirena Samba Mayala, j'en vous en parlais samedi, en 100 mètres haies. On la retrouvera également donc dans la grande soirée des Jeux samedi prochain. Et puis sinon, à 21h10, vous retrouverez Alice Finot sur le 3000 mètres steep. Pareil, un bel exploit qui est possible. Et pourquoi pas Sacha Zoya, même si ça va être compliqué en 110 mètres haies. Ou encore l'heptathlète Oriana Lazraklas. Pareil, ce sera en fin d'Olympiade. Ça va être l'heure pour nous de vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc samedi de 19h à 21h pour cette dernière grande soirée des Jeux. On parlera donc de tout ce qui s'est passé sur cette fin de semaine et puis on se projettera potentiellement sur le dernier jour, le dimanche. On va donc vous laisser avec le générique et puis on vous dit à samedi pour une prochaine grande soirée des Jeux.